Dans nos communautés, une émission de Christiane Hervault sur Radio Alliance Plus.
Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Alliance Plus. Bienvenue pour notre émission. Aujourd'hui, je suis allée sur le site de la Fédération protestante de France et j'ai vu en première page un appel à reconnaître l'engagement d'Adélaïde Oval, médecin psychiatre pendant la guerre, résistante, et qui a été reconnue juste parmi les nations. C'est Christian Krieger, résident de la Fédération protestante de France, conjointement avec Haïm Korsia, grand rabbin de France, qui lance un appel pour demander l'accueil au Panthéon de cette femme courageuse qui a lutté contre la discrimination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a été arrêtée, elle a été emprisonnée à Auschwitz-Birkenau et à Ravensbrück. J'ai donc choisi aujourd'hui de vous parler d'elle par l'intermédiaire de deux intervenants qui se sont parlé d'elle lors d'une table ronde qui a été organisée le 10 mars 2019 à l'occasion de la journée de la femme au mémorial de la Shoah à Paris. Il était question donc de deux femmes résistantes non violentes qui étaient donc à l'honneur ce jour-là. Il s'agissait d'Annette Monod et d'Adélaïde Oval, de son vrai nom complet, Marthe Adélaïde Haas Oval. Vous allez donc entendre Georges Hauptmann, professeur honoraire de la faculté de médecine de Strasbourg, co-auteur d'une biographie d'Adélaïde Oval. Il va vous parler d'elle, de sa vie, de son engagement, de ce qui s'est passé, de comment elle a vécu ce temps d'internement à Auschwitz et à Ravensbrück. Et puis, à la suite de cette intervention, vous pourrez entendre la nièce d'Adélaïde Oval, Hélène Oval, qui va aussi vous parler d'elle, après la guerre plutôt. Elle va vous parler aussi de ses écrits, notamment. Cet enregistrement de cette table ronde était animé par une journaliste qui s'appelle Valérie Nivellon et que vous entendrez aussi dans cette rencontre. Je vous invite à les écouter maintenant, à écouter ces deux interventions après une petite minute de musique et puis nous nous retrouvons juste après.
Adélaïde Oval, dite Heidi pour ses proches et ses amis, a été la deuxième Française nommée juste parmi les nations, ça a été rappelé, un an après Alice Ferrière. Patrick Cabalet n'a pas signalé qu'il a publié il y a quelques années l'histoire d'Alice Ferrière et sa correspondance. Voilà. Heidi est née le 1er janvier 1906 au Hauwald, un petit village au haut d'une vallée vosgienne de l'Alsace qui à ce moment-là était annexée au Reich. Elle était la septième enfant du pasteur réformé Philippe Haas et de son épouse Sophie Lydie Kunz. Le pasteur était très francophile et a demandé de changer son nom de Haas en Oval après la Première Guerre mondiale. Et ceci a été officialisé par la suite. Il a transmis également à ses filles, à ses fils, ses sentiments d'empathie pour le peuple de l'écriture. Ce qui explique que Heidi a déclaré en 1972 un journaliste anglais « Cette révérence envers les Juifs ne m'a jamais quitté. je ne pourrai jamais oublier qu'à travers l'histoire, ils ont bien plus souffert que tous les autres peuples. Heidi a étudié la médecine à Strasbourg, est devenue spécialiste en psychiatrie. Et fin septembre 1939, elle décide de quitter l'Alsace pour s'occuper des malades mentaux qui ont été transférés dans le sud-ouest, à Vauclair, près de Montpon-Ménestérol, en Dordogne, puis à Lannemezan, dans les Hautes-Pyrénées. Heidi n'était pas juive, ni résistante, ni communiste, ni témoin de Jéhovah. Elle a été arrêtée en gare de Vierzon, fin mai 1942, pour avoir franchi, sans laisser passer, la ligne de démarcation entre la zone nord et la zone sud. Elle a été interrogée dans un bureau de la douane lorsque sont arrivés deux soldats allemands qui, d'après ce qu'elle a écrit, ont maltraité la France en parole. Elle a donc répliqué, ce qui lui a valu 6 semaines de prison. Elle écrit à ce sujet : « J'ai été conduite à la prison de Bourges où je me trouvais avec d'autres détenus, en particulier une jeune juive. C'est à ce moment qu'eurent lieu des rafles des Israélites, dont beaucoup étaient amenés à la prison, rafles qui nous bouleversaient. Une juive a été placée dans notre cellule et je découvris qu'elle portait une étoile cousue sur sa veste pour attirer l'attention de la Gestapo. Je m'en suis confectionné une en papier », a-t-elle écrit dans ses mémoires. En fait, elle a découvert une chose qui était très récente, c'est l'obligation de porter l'étoile juive qui était tout à fait récente. Un jour, la Gestapo vient chercher la jeune juive qui se trouvait avec moi. Ne pouvant rester passive, j'ai manifesté mon indignation. La Gestapo me dit : « Du moment que vous les défendez, vous partagerez leur sort. » Quelques jours après, ils m'apportèrent l'étoile juive avec une bande de toile blanche sur laquelle on trouvait l'inscription « Amis des Juifs ». Le lendemain, je fus emmené au camp juif de Pithiviers. En principe, elle devait être libérée début juillet, mais elle avait été maintenue en prison en raison de son attitude et de ses déclarations. Et le 11 juillet, le lieutenant SS Eric Assé écrit au préfet du Cher: « La détenue Marthe Oval, qui porte l'insigne juif comme marque de sympathie, doit être transférée le même jour, c'était le 14 juillet, dans le même camp, c'est-à-dire Pithiviers. » Donc Heidi est enfermée là-bas le 15 juillet, peu avant l'arrivée de plus de 4000 personnes juives arrêtées dans la rafle du Veldiv. Et elle va s'occuper de l'infirmerie du camp, dans un premier temps détecter quelles sont les personnes atteintes de maladies infectieuses pour les isoler des autres et pour s'en occuper. Et elle va soigner en particulier les enfants. Annette Monod a écrit en 1992 : « Quand il y a eu une épidémie de diphtérie, elle s'est très bien occupée des enfants. » Elle va aussi assister, sans pouvoir intervenir, au départ des convois, en particulier le convoi numéro 14, dit des mères. Elle a écrit : « On sépare les parents des enfants. Seuls les enfants au-dessus de 15 ans peuvent accompagner leur famille. Scène abominable », a-t-elle écrit. En fait, il y avait 1034 femmes qui ont été déportées et 4 d'entre elles sont seulement revenues. Fin septembre, elle est transférée dans le camp de Beaune-la-Rolande, où elle va être atteinte de la diphtérie elle-même, puisqu'elle avait soigné les enfants atteints de cette maladie. Plusieurs personnes ont fait des demandes pour qu'elle soit libérée. Mais sa sœur Dorothée, dite Dorette, a écrit au maréchal Pétain, le 9 septembre: « Je vous demande, monsieur le maréchal, si la France ne pourrait pas faire quelque chose par votre intervention afin qu'elle ne soit rendue. Mais ma sœur ne rétractera sans doute rien de ce qui lui a causé ce préjudice temporel. » Elle savait très bien que Heidi était intransigeante et qu'elle ne changerait pas d'avis. Annette Monod a écrit dans une lettre adressée à Dorette, donc la sœur d'Adélaïde, après le départ de celle-ci du camp de Bonnelard-Hollande. « J'ai bien connu et beaucoup apprécié votre sœur, et comme tous les autres, je suis attristé par son départ. Laissez-moi vous dire en terminant, comme le passage de votre sœur a été bienfaisant. Elle n'a pas perdu son temps. Elle ne se sentait pas internée, mais en mission, et aidait tout le monde de son cran magnifique. Et elle a souligné... en mission. C'est effectivement pour Adèle Doval quelque chose d'impératif de rester dans le camp et de soigner les personnes qui étaient enfermées. Après quelques jours de prison à Orléans, elle est internée le 15 novembre au fort de Romainville, où elle rejoint les femmes détenues résistantes communistes, pour la plupart, qui sont bien connues. Et elle sera déportée à Auschwitz dans le fameux convoi du 24 janvier 1943, dit le convoi des 31 000. Avec 229 autres personnes prisonnières, dont Daniel Casanova, Marie-Claude Vaillant-Couturier, Charles Delbault et d'autres personnalités qui sont bien connues. À Auschwitz, elle est d'abord chargée de soigner des prisonnières allemandes criminelles ou prostituées dans le camp de Birkenau. Mais elle sera ensuite enfermée pendant plusieurs semaines dans le sinistre bloc 10 du camp d'Auschwitz de base, c'est-à-dire le Stammlager, dans lequel les médecins nazis, Karl Klauberg, Horst Schumann et Eduard Wirtz s'adonnaient à des expériences dites médicales, en particulier de stérilisation sur 400-500 jeunes filles et femmes juives. Elle s'y oppose catégoriquement. Un médecin déporté, collaborateur des médecins nazis, veut la forcer à réaliser des narcoses sur des jeunes filles juives grecques avant de subir une ovariectomie. Elle refuse et est dénoncée à Wirtz. Eduard Wirtz était le médecin-chef du camp d'Auschwitz. Il la convoque et lui demande, en présence de plusieurs SS armées, « Est-ce vrai que vous avez refusé d'aider aux opérations, de refuser de faire des narcoses ?» Elle répond « Oui, pourquoi ?» Parce que c'est contraire à mes convictions. Ne voyez-vous donc pas que ces gens, c'est-à-dire les Juifs, sont différents de vous ? Je ne puis m'empêcher de lui répondre que bien des gens sont différents de moi, par exemple vous-même. Et cette réplique à Wirtz a été qualifiée par la suite de foudroyante lors d'un procès à Londres en 1964. Et en fait, Wirtz était abasourdi, il n'a pas réagi. Et Adélaïde a commenté ainsi sa réplique dans un entretien accordé à Jean Rosenthal, qui fut compagnon de la Libération, président du CRIF. Et cet entretien a été publié dans l'Express en 1964. Elle lui a dit « Vous savez, je suis spécialisée en psychiatrie et souvent le comportement des Allemands m'a rappelé les attitudes psychologiques de certains arriérés. » Au fond, ce sont des faibles qui cherchent toujours à dissimuler leur faiblesse sous des rêves de compensation. Et si on leur tient tête, ils sont sans réaction, ils sont décontenancés. Elle réussit finalement à s'échapper du bloc 10, à se cacher à Birkenau pendant quelque temps, mais Josef Mengele, l'ange de la mort, la repère. Elle écrit « Quelque temps après mon retour du bloc 10 du camp des hommes, il me convoque pour me dire qu'il faut participer à ces atroces travaux sur les jumeaux. À ma question « Cet ordre est-il définitif ?» Il répond « Mes ordres sont toujours définitifs. » Mais son entourage m'a fait savoir dans la suite qu'il aurait dit « Je ne peux pas la forcer à ce qu'elle ne veut pas faire. » Ben, il a bien compris qu'il n'avait pas à l'engager pour ses expériences. Le 16 août 1943, elle est informée d'un projet de transfert au bloc 10 où sont prévues des exécutions. Les exécutions se pratiquaient dans l'intervalle entre le bloc 10 et le bloc 11. Une jeune détenue communiste appelée Orly, qui était responsable du bloc dans lequel Adélaïde se trouvait, lui dit « Il faut que tu cèdes en ce qui concerne les expériences ». Je lui ai répondu que ce n'était pas possible. « Alors ne t'occupe de rien », me dit-elle en me donnant un somnifère. Le lendemain, personne ne vint me chercher. Par la suite, j'ai repris mes fonctions à Birkenau. Elle n'a jamais compris exactement ce qui s'est passé. Elle craignait avant tout qu'une autre personne ait été livrée à sa place pour être exécutée. Fin 1943, elle est atteinte de typhus et ne s'en remettra qu'au mois de mars suivant. Marie-Claude Vaillant-Couturier avait été atteinte également du typhus et Danielle Casanova, elle, était morte du typhus quelques semaines après son arrivée à Auschwitz. Début août 1944, elle est acheminée donc au camp de Ravensbrück avec 49 survivantes du convoi initial et affectée à l'un des blocs de l'infirmerie où elle sera confrontée de nouveau à des médecins nazis, Percival Traité et surtout Adolf Winkelmann, appelé le bourreau. Elle va mettre tout en œuvre pour protéger, sauver les déportés, surtout en falsifiant les feuilles de température auxquelles les médecins nazis accordaient beaucoup d'importance. Elle a écrit « Ce sont des instruments redoutables selon ce qu'elles contiennent ». Donc elle a écrit « Un diagnostic dangereux est camouflé ». Il faut doser les degrés de température, en inscrire à celles qui n'en ont pas, la supprimer à celles qui en ont. Les résultats des analyses de laboratoire doivent être exagérés, supprimés ou inventés selon les cas. Suppression des feuilles si le séjour à l'infirmerie doit se prolonger. Refaire de nouvelles feuilles de température s'il y a lieu. Supprimer des traces révélatrices. Donc elle réussit à berner les médecins nazis, car elle a écrit « Ces messieurs ne sont pas très forts en médecine et il est facile de leur faire prendre des vessies pour des lanternes. » Bon, elle n'avait aucune crainte des SS. Le camp est libéré le 30 avril 1945. Marie-Dy va rester sur place avec Marie-Claude Vaillant-Couturier, une doctoresse Risse, pour soigner les survivantes qui étaient trop faibles. Et elle va quitter le camp en dernier, le 26 juin, donc après le départ des SS. Donc elle a passé en tout 37 mois d'emprisonnement, de déportation, de juin 1942 à juillet 1945.
Voilà. Merci infiniment, Georges Hoffmann. On a un aperçu, en vous écoutant, de l'écriture aussi de ce livre, puisque Adélaïde Oval a extrêmement documenté son expérience, qui vous permet de nous faire les dialogues, ce qui est absolument fascinant. Et on est absolument sidéré par la façon dont cette femme dit non, et c'est un des points communs bien sûr avec Annette Monod, et cela pose la question jusqu'où on peut dire non dans les circonstances qui étaient les leurs. Ce sont des questions également qui ont été mises en jeu lors des procès. Alors nous accueillons maintenant le témoignage de la nièce d'Adélaïde Oval, donc Hélène Oval. On voit que se dessinent peu à peu les contours de l'engagement de votre tante, Adélaïde Oval, en résonance, bien sûr, avec l'engagement de Annette Monod, de figure de cette résistance féminine, de femmes également très ancrées, comme l'a rappelé Patrick Cabanel, dans leur culture et leur religion protestante. Est-ce que vous aviez jamais entendu Adélaïde Oval évoquer son expérience de l'emprisonnement, évoquer son expérience de la déportation à la maison lorsque vous étiez gamine? Puisqu'on a bien compris qu'Annette Monod en parlait volontiers, mais comment ça se passait du côté d'Adélaïde Oval?
Eh bien, c'était un petit peu différent, puisque elle ne parlait pas, en fait, de cette période de sa vie en famille. Je l'ai entendu évoquer véritablement qu'une seule fois, lorsqu'elle a relaté un épisode, alors qu'elle travaillait sur le livre Chambre à gaz secret d'État, puisqu'elle avait été sollicitée pour traduire un certain nombre de documents et également, bien sûr, témoigner, même si jamais son nom n'apparaît pas dans la liste des intervenants de ce livre. Toujours est-il que c'est à ce moment-là qu'elle a choisi, avec un de mes cousins, de partager un épisode qui était particulièrement terrible, puisque c'était les prisonniers qui avaient été leurrés, en fait, par des personnes, en l'occurrence, qui se faisaient passer pour la Croix-Rouge, qui pensaient à pouvoir avoir prendre une douche, en l'occurrence, et ce n'était pas une douche, comme vous le savez, mais c'était une chambre à gaz. Donc elle avait choisi de relater cet épisode à mon cousin qui était là et moi-même.
Vous aviez 13 ans à l'époque, voilà, c'est ça, j'avais Hélène, et est-ce qu'à ce moment-là, vous aviez déjà remarqué son tatouage sur son bras?
Alors oui, effectivement, j'avais remarqué son tatouage, mais j'étais très jeune. D'ailleurs, je la voyais assez peu souvent, puisque nous habitions en Alsace et qu'elle habitait donc à Groslay. Donc là, je la voyais deux ou trois fois par an. Et j'avais donc remarqué ce tatouage et je me disais, mais pourquoi est-ce qu'elle garde ce numéro de téléphone de qui est-ce? Et alors, au bout d'un certain nombre de fois, j'avais remarqué qu'il manquait un chiffre, mais malgré tout, je ne connaissais pas la signification de ce numéro.
Alors, en grandissant, Hélène Oval, qu'est-ce que vous avez compris au fond de l'engagement et surtout de la façon dont votre tante a documenté son expérience? C'est-à-dire qu'au fond, elle n'en parlait pas, mais elle avait écrit, elle continuait à écrire et elle avait même un projet de publication post-mortem de son vivant.
Alors, effectivement, ce qui est intéressant, c'est la démarche qu'elle a eue, à savoir que dès sa libération en 1946, elle a décidé d'écrire un manuscrit. Très factuel, s'appuyant même pour augmenter le côté objectif de ces notes, s'appuyant même sur des lettres qu'elle avait elle-même écrites, échangées avec sa sœur. Et ce n'est qu'en 1987, qu'elle a décidé de reprendre ce manuscrit, d'y rajouter quelques éléments et de le confier à Ladir, et en particulier à Anis Postel-Vinet qui a pris en charge la publication de ce manuscrit. Alors, je ne sais pas si on peut dire que véritablement elle souhaitait une publication post-mortem, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle souhaitait que ce témoignage-là, qui est très brut, hein, qui est presque brutal, qui n'est pas du tout empreint d'émotion, c'est-à-dire qu'elle relate uniquement les faits. Et c'est d'autant plus percutant. Et je me souviens d'une correspondance que j'avais lue entre Anis Postel-Vinet et une camarade également qui avait été déportée, une survivante, dans laquelle Anis a le nom de bijou pour qualifier ce témoignage. Venant d'une personne qui avait été déportée, je pense que c'est particulièrement frappant. Donc cette objectivité, ben oui, on cherche à la poursuivre parce que cet esprit d'objectivité, on cherche à le poursuivre puisque souvent on met en doute, les histoires relatées sont tellement incroyables qu'encore aujourd'hui il y a des personnes qui peuvent mettre en doute ces événements. Et donc cet esprit a été poursuivi puisque, alors il y a une première édition de ces mémoires, on peut dire ça, aux éditions Actes Sud en 1991, puis une réédition aux éditions du Félin en 2006, et c'est vrai que malgré cela, ce témoignage était relativement peu connu, même s'il y a quelques personnes qui ont entrepris l'organisation de colloques, en particulier en Alsace, ou même de spectacles autour de ce qu'elle relatait. Et puis c'est Georges Hopman qui a finalement fait un certain nombre de recherches en s'appuyant en partie sur des archives que nous avions, que ma mère avait conservées à la maison. Et avec Marie-Vonne Buschwig, vous avez donc écrit ce livre sur Adélaïde Oval, qui non seulement donc relate des passages de son témoignage, mais aussi qui l'alimente avec toutes ses archives, des copies de lettres, des lettres qu'elle a envoyées, qu'elle avait réussi entre autres, ce qui m'émeut à chaque fois beaucoup, des wagons lorsqu'elle était partie à Auschwitz. Et donc c'est à cette occasion-là qu'on a pu, ce manuscrit a pu être enrichi de ses témoignages. Et puis enfin, Rester humain, où là, ce sont des autres textes d'Heidi, c'est-à-dire pas uniquement ce témoignage brut qu'elle a voulu, elle, donner post-mortem. J'avais pas tout à fait fini sur ce sujet. Certes, parce qu'elle savait ce qu'elle allait faire elle-même, elle avait un projet d'action pour sa propre personne, et lorsqu'elle a donné ce manuscrit en 87, elle savait pertinemment que ce serait post-mortem. Maintenant, elle ne l'a pas précisé de cette façon-là à ses camarades. Donc, et ce dernier livre qui reprend d'autres textes d'elle qui ont été pour la plupart écrits effectivement juste après la guerre et qui sont un petit peu différents que le message qu'elle a voulu laisser à la fin, puisqu'ils sont, ce sont vraiment des témoignages à chaud qu'elle donne. Et là, c'est encore autre chose. Et donner accès à ces textes-là, pour moi, est vraiment formidable. Je vous en remercie. Je remercie les éditions Apollos. Entre autres, les Apôtres des camps, où là, on rejoint effectivement l'esprit qu'avait Annette Monod, puisque dans Apôtre des camps, elle fait l'hommage de justement toutes ces personnes qui ont su aider. Enfin, ils ont su s'aider les uns les autres. Voilà.
Vous êtes bien sûr Radio Alliance Plus 103.2. Vous nous écoutez peut-être en DAB+, mais vous pouvez aussi nous écouter sur nos podcasts, sur radioallianceplus.fr. Aujourd'hui, nous parlons d'Adélaïde Oval, médecin psychiatre qui a été emprisonnée pendant la guerre à Auschwitz et à Ravensbrück et pour avoir soutenu les Juifs pendant la guerre. Vous avez pu entendre parler d'elle par Georges Hauptmann, professeur honoraire de la faculté de médecine de Strasbourg et co-auteur d'une biographie d'Adélaïde Oval. Et puis ensuite, vous avez entendu sa nièce, Hélène Oval, vous parlez d'elle encore, vous parlez de ses écrits aussi et de sa vie après la guerre. Pour continuer un petit peu sur la vie d'Adélaïde Oval, il faut savoir qu'elle ait continué à faire son métier de médecin, mais plutôt en médecine scolaire, à Besançon, dans le Val d'Oise, après la guerre, qu'elle a aussi écrit des livres, donc ce livre « Médecine et crimes contre l'humanité » dont nous a parlé sa nièce, qu'elle a reçu le titre donc de « Juste parmi les nations » en 1965. Et puis, elle a été atteinte de la maladie de Parkinson et elle a choisi de se donner la mort le 12 octobre 1988. Si vous voulez en savoir plus sur elle et si vous voulez lire des biographies, il en existe plusieurs, notamment une de Sabine Fèvre, une autre de Denis Labelle, qui a d'ailleurs donné une conférence l'été dernier sur Adélaïde au Musée du Désert dans nos Cévennes. Et bien sûr, peut-être aussi lire les écrits d'Adélaïde elle-même, donc médecine et crimes contre l'humanité en particulier. Voilà, nous avons parlé de cette femme admirable. Je vous rappelle que vous pouvez aller sur le site de la Fédération protestante de France si vous voulez participer à et signer la pétition pour que Adélaïde rentre au Panthéon. Je vous souhaite maintenant un bon week-end, de bonnes lectures en lisant ces livres sur Adélaïde Oval. Je vous dis à la semaine prochaine.